les 150 ans de la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne, société savante et personnalité régionale. Rencontre scientifique organisée par la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne à l'occasion du 150e anniversaire de sa fondation, novembre 1873-novembre 2023, avec le concours de la ville de Bayonne. Les 150 ans de la SSLA à la Maison des associations de Bayonne, les 22 et 23 novembre 2023. Dominique Cabarrus, une figure majeure de la vie bayonnaise du XVIIIe siècle, voici l'intervention de Josette Ponté, professeure émérite de l'Université de Bordeaux-Montaigne et présidente de la SSLA.
Donc, Dominique Cabarrus, l'aîné, personnalité marquante de la vie bayonnaise au XVIIIe siècle. Alors, s'il était au XVIIIe siècle un bayonnais qui comptait dans la cité, il n'est pas sûr que sa notoriété soit encore très présente à Bayonne. Si le nom est connu, c'est surtout à travers celui de ses fils. L'un, l'aîné, François, qui a été fait comte en Espagne, qui a une rue à son nom dans le quartier Marac à Bayonne, et Pierre-Étienne, qui a acheté l'hôtel de Bretousse à l'angle de l'actuelle rue Victor Hugo, que vous connaissez pour les Bayonnais, et qui a été connue pendant très longtemps sous le nom de Maison Cabarrus. Pourtant, la personnalité de Dominique Cabarrus l'aîné mérite d'être connue, me semble-t-il, à Bayonne. S'il ne part pas du bas de l'échelle sociale, il va néanmoins connaître une ascension très remarquable et faire partie de l'élite négociante qui tient presque tous les rouages de la ville. Cette ascension, qui n'est pas ordinaire si elle n'est pas exceptionnelle, le mène jusqu'à l'annoblissement. Annoblissement par le roi à la veille de la Révolution, un peu tardivement sans doute. Ces lettres patentes coïncide au début mai avec la réunion des États généraux. Un anoblissement qui lui confère le titre de noble et écuyer, ainsi qu'à ses enfants, postérité et descendants. Donc nous nous proposons de nous intéresser successivement à ses origines familiales, au négociant qui a été anobli, à l'homme dans la cité, un regard sur sa vie privée et enfin un essai de définition de ses idées. Il est bien évident que dans le temps imparti qui va être très sévèrement contrôlé par mon voisin, nous ne proposerons ici qu'un survol de ce qui a été sa vie, qui mériterait évidemment et qui mérite d'ailleurs un ouvrage entier. Alors tout d'abord, son milieu familial. Eh bien, Dominique Cabarrus appartient à une famille de capitaines de navires installés à Cap-Breton au moins depuis 1602. C'est la date qui est retenue dans son acte d'anoblissement. Certains lui prêtent des origines navarraises espagnoles. Cette famille est peut-être venue de Navarre. On est dans le flou. Son grand-père, Bertrand Cabarrus, est bourgeois et capitaine de navire à Cap-Breton. Il y a acquis des biens, maisons, terres et héritages qu'il loue en fermage dans la Marraine, dont son fils, Barthélemy, est l'héritier désigné lors de son mariage à Bayonne en 1707 avec Marie Fourcade, issu d'une famille bourgeoise déjà importante dans la marchandise et le commerce traditionnel déjà à l'époque de Bayonne, de la laine notamment. Le contrat de mariage qui le lie à cette Marie Fourcade est établi chez le notaire du bourg Et on y voit évidemment les conditions de l'équilibre marital. Barthélemy a quitté Cabreton pour s'établir à Bayonne en 1706. Son mariage a lieu donc le 22 septembre 1707 et il a quitté Cabreton pour venir s'installer à Bayonne et élargir ses activités, mais perspective va lui offrir la possibilité de devenir lui-même propriétaire de bateaux, armateur, et par exemple en 1718, avec les frères de sa femme, il fait construire une frégate de 10 tonneaux avec la perspective du cabotage avec Rouen. Il possède toujours les biens qu'il hérite de son père dans la Marraine et ces biens sont assez importants. En 1722, il va les vendre à son beau-frère, qui est capitaine de navire à Cabreton, Antoine Duller. Il semble se débarrasser de ses biens fonciers à Cabreton, dans la Marraine, à Bénès, et pour se concentrer sur la vie bayonnaise. En fait, son mariage est réussi, semble-t-il. En tous les cas, il est particulièrement fécond. Il y a un instant, Marilyn Chevrel vient d'évoquer la famille de Lesseps de 14 enfants mis au monde, je crois. La famille de Cabarrus, elle, bat ce record encore, puisque c'est 16 enfants qui ont été mis au monde par au moins 16 enfants au moins qui ont été mis au monde par le couple Barthélemy Cabarrus Marie Fourcade. Et ce qui est plus extraordinaire, c'est que démographiquement, c'est exceptionnel au XVIIIe siècle. Sur ces 16 enfants mis au monde, 14 sont encore vivants à la mort de leur père. Et Barthélemy Cabarrus énumère dans son testament tous ses enfants vivants par ordre de naissance, ce qui est pour nous un renseignement extrêmement important, car généalogies qui ont été produites sur la famille Cabarrus sont plus que vicieuses et elles sont, quand je dis vicieuses, je devrais dire erronées, puisque l'une d'entre elles dit qu'il y a eu beaucoup d'enfants, mais que la plupart sont morts en bas âge, ce qui est absolument faux, parce que comme ça on s'y intéresse à personne, c'est très facile. Ces enfants mis au monde, 14 vivants, et notre Dominique, lui, est un des premiers-nés de garçons qui va rester dans la famille. Il est appelé Dominique par le jeu des parrainages. Et comme dans les familles de l'Ancien Régime, souvent, plusieurs enfants portent le même prénom par le jeu, justement, des parrainages. Et dans la famille Cabarrus, qui n'échappe pas à la règle, il y a Dominique l'aîné, qui est né le 26 mars 1716, et Dominique le jeune, qui est né le 6 octobre 1722. L'aîné est établi à Bayonne, c'est le nôtre. Dominique le jeune est établi à Bordeaux, également armateur et négociant. Et évidemment, il y a beaucoup de confusion entre les deux Dominiques dans les textes que l'on peut lire écrits un peu hâtivement. Quand Barthélemy meurt à la tête de cette nombreuse famille, tous ses enfants sont encore mineurs. Et il va léguer à sa femme, Marie Fourcade, tous ses biens. Et non seulement ses biens, mais ses affaires. et c'est elle qui va diriger l'affaire Cabarrus, la maison Cabarrus. C'est elle qui va hériter de ses fils qui meurent au Cap. C'est elle qui distribue 1000 livres à chacun de ses fils au moment de leur mariage. C'est elle qui est vraiment la femme maîtresse dans la famille Cabarrus originelle. Cette famille particulièrement nombreuse est aussi fortement unie. Les frères et les sœurs étant, comme cela se faisait aussi assez souvent, parrains et marraines des nouveaux venus, ce qui explique évidemment le renforcement des relations familiales, mais qui en même temps montre que le réseau social est assez limité. Il se réduit presque qu'à la famille, même si elle est très étendue. Et seulement, il est évident que l'on a une famille qui est vraiment très proche l'une de l'autre, apparemment, en tous les cas, tous les frères étant témoins des mariages des autres, les frères surtout, les femmes sont un peu en retrait. Barthélemy a fait le vœu dans son testament que sa famille reste unie comme elle l'a toujours été et il semble globalement avoir été entendu. C'est dans ce climat qu'a été élevé Dominique l'aîné. Dominique est considéré dans les lettres d'annoblissement de mai 1789 comme le plus ancien négociant de la ville. Il est le deuxième fils de la fratrie que je viens d'évoquer et on ne sait quelles études il a fait. Ce que les archives nous apprennent, c'est qu'il ne semble pas avoir été destiné au métier de la mère. En effet, ma surprise a été assez grande de le trouver clair tonsuré à l'âge d'un peu plus de 8 ans, en octobre 1724, chez le notaire Lesseps, dont on vient de parler, et qui est l'oncle de Dominique Cabarrus. Il ne faut pas l'oublier. Et il est clair tonsuré, il devient titulaire d'une prébende desservi dans la cathédrale que les patrons laïcs de cette prébende, les Duverger, notamment Duverger de Haut-Joannis, lui ont octroyé. Les patrons laïcs donnent des prébendes à des personnes, des enfants, des jeunes, et lorsqu'elles se libèrent, ils les donnent à un autre. Il reste prébendier de la cathédrale jusqu'au 10 septembre 1733, date à laquelle il se démet de la prébende, il a alors 17 ans et demi. Et sa signature est déjà extrêmement forte, ferme, elle ne va pas guère varier au cours de toutes ces années d'existence. Il n'est en fait, coïncidence ou pas, il est délibéré ou libéré plus exactement de sa prébende alors que son père est malade et qu'il va mourir quelques mois plus tard. Si les lettres d'annoblissement le reconnaissent comme le plus ancien négociant de la ville, il souligne le mérite qui lui revient d'avoir fondé une maison de commerce devenue, je cite, « par ses soins très florissante. Sa probité et ses lumières lui ont mérité non seulement l'estime de ses concitoyens, mais celle de toutes les places de l'Europe. » C'est là quelque chose de capital pour un négociant afin qu'il soit reconnu. On trouve les mots de probité, de lumière, d'une société florissante, et c'est là véritablement ce qui peut susciter l'estime de ses concitoyens, mais évidemment ce qui est encore plus important, c'est l'estime de toutes les places de l'Europe. Donc vous vous imaginez la renommée de la maison qu'a fondée Dominique Cabarrus avec bientôt son fils. Les attendus de ces lettres sont donc extrêmement élogieux, mais on serait surpris qu'il n'en fût pas de même. Toutefois, on peut dire que sa réussite est sans doute liée à ses mérites, mais il ne faut pas oublier qu'elle tient aussi à son mariage avec Marianne Lalanne le 11 janvier 1752 et grâce aux alliances familiales que ce mariage lui a procurées. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver le contrat de mariage qui a existé, mais qui ne figure pas dans aucune des études notariales conservées. Il s'agit d'un mariage avantageux qui le voit s'allier à une des familles déjà très bien installées dans le négoce. Sa réussite dans les affaires va être très largement favorisée par les relations familiales que les Lalanne vont lui offrir. Mais on voit que c'est un mariage inégal, ou en tous les cas, où l'épouse est plus importante que l'époux. En tous les cas, il dit dans son testament, si je n'ai pas le contrat de mariage, j'ai en revanche le testament, il dit dans son testament que ses beaux-parents lui ont imposé, en quelque sorte, des conventions qui font de sa femme l'héritière, la propriétaire de ses biens à moitié. Donc, que tous ses biens viennent de ses acquis. Donc, voyez l'importance de ce contrat de mariage et de la famille Lalanne. Alors, les Lalanne, je ne vais pas ici entrer dans le détail, mais c'est une famille nombreuse. Il a pour beau-frère Jean-Baptiste, Jean-Pierre, Touton et Paulin Lalanne, qui sont à la fois insérés à Bayonne, à Madrid, à Paris, qui sont véritablement une nébuleuse extrêmement forte dans le négoce international et particulièrement ibérique. Donc des alliances très fortes qui, évidemment, l'orientent encore plus vers la péninsule ibérique, comme d'autres négociants bayonnais. Évidemment, une des activités de ce négociant, c'est d'importer des piastres, un commerce qui est toujours très actif à Bayonne en 1755, à l'époque de son mariage, et on en a le témoignage par l'intendant d'Étigny, qui dit que Bayonne reste un point essentiel pour l'importation des piastres à l'échelle du royaume. Et ce qui est très important et qui le confirme, c'est que l'importation des piastres vient de plus en plus, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, de la Corogne. C'est par la Corogne qu'arrive le métal ibérique. Et Dominique Cabarrus est extrêmement bien placé par le consul de France avec lequel il a des relations à la Corogne. Donc tout ceci est un ensemble qui apparaît très homogène. Cette fonction lui permet d'être en relation avec tous les négociants qui travaillent avec l'Espagne et il est, je prends un exemple, le représentant de négociants espagnols qui est particulièrement important à Vigo, López de Fuentes. Sa maison s'appelle López Fuentes et compagnie, et il charge Dominique de voir ce qui est arrivé à une cargaison de peaux de veau qu'il a achetée à Nantes, qui fait escale à Bayonne avant d'aller à Vigo, et ces peaux sont supposées être avariées. Donc Dominique et son fils font venir les peaux dans leur magasin de la rue des Augustins pour vérifier avec des experts la qualité des peaux et, bien entendu, peuvent décider si elles sont avariées ou pas. Et là, elles sont simplement échauffées, donc c'est un rabais sur le prix des peaux que Dominique va indiquer à son interlocuteur. Négociant, il est aussi banquier, ce qui consiste à négocier des lettres de change, à pratiquer le prêt d'argent à des armateurs, et il semble être très versé dans le prêt à la grosse, qui est un prêt à la fois prêt d'argent et assurance maritime, sur lequel je ne m'étends pas, parce que autrement je dépasserai trop dans mon temps. C'est une personnalité qui compte. Il rencontre aussi bien Vergennes, lorsqu'il vient à Bayonne en 1762, que Lafayette ou John Adams, qui débarquait à la Corogne ou au Férol, se dirige vers Paris et il est reçu à Bayonne par Dominique Cabarrus. Cette proximité avec de telles personnalités lui valent d'ailleurs quelques jalousies dans le milieu négociant, et notamment chez les Bretousse et la Serre, qui sont à la fois vaguement parents, mais dans des clans assez différents. Sans doute les années 1770, avec la crise que connaît Bayonne, est un peu moins brillante, mais en fait, et la Révolution va apporter son lot de difficultés, mais en fait, la fin de la période est quand même assez prospère pour la maison Cabarrus, et on peut dire que en 1782, la création de la banque Saint-Charles, qui a le monopole désormais de l'exportation des piastres, qui a été quand même fondée en grande partie par François Cabarrus, eh bien, fait qu'il y a des accords familiaux qui font que Bayonne n'est pas trop pénalisé par la concurrence ou le monopole de la Banque Saint-Charles. Alors, troisième aspect que je veux développer, son rôle dans l'administration de la ville. Eh bien, Dominique s'est hissé parmi les quelques familles qui dominent l'échevinage, la chambre de commerce et la juridiction consulaire. Et on peut dire que c'est là le nœud vital de l'économie municipale, véritablement. Les institutions sont étroitement liées, et pour y entrer, à Bayonne particulièrement, il faut être une personne de considération, avoir une assise financière reconnue et mettre la chose publique dans n'importe quelle main est inenvisageable. La notoriété peut s'acquérir dans la gestion des lettres de change en agissant pour l'honneur du tireur. Et lorsqu'il se marie en janvier 1752, Dominique est dit ancien consul de la Bourse, un titre jugé très honorifique, parce que, en fait, c'est la clé de la promotion sociale. Il faut être passé par avoir charge de la Bourse à Bayonne pour pouvoir accéder à l'échevinage. Dominique va être présent dans les trois corps qui commandent la ville, mais il faut constater néanmoins qu'il n'a été ni premier échevin, ni maire de Bayonne. En fait, il ne participe pas aux grandes affaires de bail de la ville, il reste quand même à l'échevinage à un niveau un peu inférieur, mais comme l'a constaté Gérard Rollois, qui a travaillé sur ces échevins, il est représenté quand même toujours au pouvoir municipal, parce que le maire est Étienne Lalanne, par exemple, qui est un membre de la famille. Donc, voilà. Alors, en fait, ce qui va être un des rôles majeurs dans l'administration de la ville de Dominique Cabarrus, c'est de se pencher sur le problème du statut du port. En effet, la ville est à la fois privilégiée, elle se déplace, elle se considère comme à la fois étranger, de étranger effectif et ville de la Sénéchaussée des Landes. Or, il est évident que ainsi, elle ne paie pas de taxes ni pour le commerce extérieur, ni pour le commerce intérieur. Et c'est une situation privilégiée qui est due historiquement à sa position à la frontière avec l'Espagne, qui était une puissance ennemie redoutée et redoutable. Mais les choses ont changé. Un, l'administration du royaume est largement dans les mains de la ferme générale et qui a l'oreille du contrôle général. Et d'autre part, l'Espagne n'est plus une ennemie redoutable, elle est plutôt une amie. Donc les privilèges de Bayonne sont un peu écornés. Et en fait, le travail de la ferme va être, de la ferme générale, va être de ramener Bayonne à la norme générale, c'est-à-dire lui faire payer des droits lorsqu'elle commerce. Et donc, il se trouve que Cabarrús va prôner le statut de port franc qui va alimenter la chronique pendant bien longtemps. Alors, la question que l'on peut se poser, Cabarrús a-t-il été gagné aux idées nouvelles, question qu'a posée mon prédécesseur tout à l'heure? Eh bien, on peut dire que, en fait, certains aspects pourraient le prouver. D'abord, il est membre de la franc-maçonnerie bayonnaise et il a été un des fondateurs de la Zélée. D'autre part, il a été un des membres actifs du comité de la Société des Amis de la Constitution. Mais, en réalité, il ne semble pas s'être manifesté particulièrement pour la rédaction des cahiers généraux, des états généraux, ni pour, encore moins, pour la question des colonies et de l'abolition de l'esclavage. On n'entend pas du tout sa voix. En revanche, il a été évidemment un directeur de la Chambre de commerce actif. Il a été ce qu'on peut appeler un libéral économique, véritablement, alors que d'autres clans sont protectionnistes. En fait, il a réussi à maintenir ses activités après ses difficultés pendant la période révolutionnaire, qui l'ont vu emprisonné pendant quelques mois à Tarbes. Mais en fait, il a repris ensuite son cours brillant de société très importante. Et en fait, ce qui peut jouer, c'est qu'il, son testament veut remarquer qu'il est resté un fidèle catholique romain toute sa vie et qu'il demande à ses fils de perpétuer la foi catholique dans laquelle il s'est toujours comporté. On revient à son origine de clerc tonsuré, mais toute sa vie ne semble pas avoir été totalement en conformité avec ceci. Il est resté monarchien, cependant. Il a été favorable aux Girondins, faute d'être favorable comme il le souhaitait aux Feuillants. Mais, en fait, c'est un personnage tout à fait intéressant que je développerai davantage dans le texte écrit. Merci.
Dominique Cabarrús, une figure majeure de la vie bayonnaise au XVIIIe siècle. Vous venez d'entendre Josette Ponté, professeure émérite de l'Université de Bordeaux-Montaigne, présidente de la SSLA. Et maintenant, nous écoutons l'intervention de Laurent Tedjen, historien écrivain de l'Académie des Belles-Lettres de Clermont, consacré à François Duourcault, un officier écrivain bayonnais, Laurent Tedjen.
En fait, pourquoi s'intéresser à François Durcot, qui effectivement n'est pas très connu aujourd'hui ? Alors, c'est un peu lié à mes racines personnelles, puisque je suis originaire de Lorraine, et un jour, figurez-vous, je suis tombé sur ce livre qui s'intitule donc « Violon de Lorraine », recueil de chants lorrains par Maurice Barrès, donc le grand Maurice Barrès, le grand lorrain, et figurez-vous, édité à Bayonne. Donc ça, c'était une curiosité qui méritait d'être étudiée. Ça a été le point de départ de mes recherches sur François Durcot. Alors, François Durcot est né en 1853 à Angers. Mais en fait, son père est pyrénéen, de médecin à Cotteret. Il a d'ailleurs été maire de Cotteret pendant un certain temps. Et sa mère était angevine. Donc François Durcot va passer une partie de son enfance, enfin partagée entre les Pyrénées et puis Angers. Il a la vocation militaire. Il rentre à l'école d'officier de Saint-Cyr en 1903. Il en sort donc en 1905, deux ans après, avec un excellent rang, puisqu'il est troisième de sa promotion, ce qui normalement aurait dû le destiner à être général en fin de carrière. Vous verrez que les événements vont décider autrement. Sa première affectation est Saint-Brieuc, et comme sous-lieutenant, et ensuite comme lieutenant, il est affecté au 49e régiment d'infanterie à Bayonne. Et donc là, pour lui, ça va être une découverte de la ville et du Pays Basque, et puis il va tomber sous le charme de cette région. C'est également un lettré, donc qui aime bien écrire. Il va en fait commencer par travailler sur des études militaires. Il va publier dans la Revue Militaire Générale. Bon, des études de théorie militaire. Alors, il faut dire que c'est il épouse les théories de l'époque, de l'offensive à outrance, l'utilisation du 75, en fait, de l'artillerie de petit calibre, etc. Théorie qui ne sera pas forcément la plus adaptée pendant la Grande Guerre, comme on le verra par la suite. Il va également publier un certain nombre de textes, de conférences qu'il fait à Biarritz Association sur des grands auteurs qu'il apprécie. Alors, il va commencer avec Maurice Barrès. Donc, c'est un grand amateur de Maurice Barrès. Ensuite, c'est en 1912. En 1913, il fera une conférence et éditera le texte à Bayonne sur Maurice Donnet, un académicien, et enfin l'année suivante sur Jules Lemaître, un autre écrivain académicien. Il va faire paraître un texte qui s'appelle Juvenilia, qui est un recueil de six sortes de nouvelles dans lequel on retrouve très fortement l'influence de Pierre Loti. C'est aussi un grand admirateur de Pierre Loti, et il présente ces textes un peu de la manière de Pierre Loti. On va y retrouver la mélancolie, la nostalgie que l'on retrouve chez Pierre Loti. Alors, l'amour du Pays Basque, et il explique même qu'il aurait rêvé d'être un jeune Basque. Voilà, c'est le Juvenilia, un texte qui n'a jamais été réédité, il avait été édité à Biarritz, et qui est véritablement, à mon avis, le chef-d'œuvre de sa carrière littéraire. Je dois dire aussi, il se marie en 1913 avec Maryse Ducazeau, qui est une bayonnaise et qui sera aussi connue comme femme de lettres sous le nom de Marie Socori. J'y reviendrai si j'ai une minute en fin de ma présentation. Nous arrivons à 1914, l'été août 1914, donc il est mobilisé et il part le 6 août avec le 6 août 1914 de Bayonne avec le 49e d'infanterie pour le front. Une petite anecdote, en fait, il est le poète d'Espax. Le poète de Dax lui envoie au moment de son départ une gerbe de fleurs et il va distribuer ces fleurs aux hommes de sa compagnie. et finalement il n'y en aura pas assez, il va en acheter, et puis ses autres collègues officiers des autres compagnies et bataillons vont acheter des fleurs, si bien que tous les soldats du 49e qui partiront ce jour-là seront fleuris sur cette idée. Le 29 août 1914, il participe à la bataille de Guise et est grièvement blessé au niveau de l'abdomen. Donc il part en convalescence quelques mois. Il retourne au front à la fin 1914 et en février 1915, il est blessé à nouveau à Urtebise sur le plateau de Craon. Il a le bras gauche arraché et il a le bras droit qui est également abîmé, mais qu'on va réussir à lui sauver. Suite à sa première blessure, il avait été nommé capitaine et chevalier de la Légion d'honneur. Il est nommé officier de la Légion d'honneur suite à cette blessure, mais évidemment, sa carrière militaire prend fin. Il va ensuite, après la guerre, se consacrer à ses deux passions, je dirais, la défense de l'intérêt des anciens combattants. Il va être le premier... Il va être le fondateur du groupe de l'UNC, l'Union Nationale des Combattants du Pays Basque. Il va y être toujours actif. Donc là, j'ai mis la brochure du congrès qu'il y avait eu en avril 1935, de quelle est extrait la photo que vous aviez en tête de la présentation. Donc il va se consacrer à la défense des anciens combattants. Il sera toujours très très actif dans ce domaine. Il sera d'ailleurs fait commandeur de la Légion d'honneur par le maréchal Pétain à ce titre. Et puis ensuite, en 1938, il sera élevé à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur, toujours par le maréchal Pétain. Sa deuxième passion auquel il va se livrer, c'est la littérature. Il va écrire un certain nombre de romans et de textes, et c'est ce que je vais plus particulièrement développer. Le premier ouvrage qu'il va faire paraître, c'est La révolte des morts. Comme il l'expliquera dans une édition, dans la préface d'une édition ultérieure, le groupe UNC du Pays Basque avait été révolté par les conditions, enfin les conditions trop clémentes laissées aux Allemands à l'occasion du congrès de Versailles. Et donc ils avaient voulu élever une protestation au niveau de l'UNC nationale, et puis également ils avaient sollicité le député de Bayonne pour qu'il fasse une intervention à la Chambre pour expliquer donc leur mécontentement vis-à-vis du traité de Versailles. Et en fait le député s'était, pardonnez-moi l'expression, il s'était dégonflé et il n'avait rien fait. Et donc François Durcot a écrit ce livre un peu en réaction. Alors, de quoi parle-t-il ? En fait, il s'agit de quatre personnes. Alors, c'est une caricature. Hein. Donc, il y a un businessman de la SDN, un Américain, qui s'appelle All for Gold. Alors, déjà, c'est tout un programme. Hein. Si on traduit, ça veut dire tout pour l'or. Il est accompagné d'un ministre député qui a été réformé, hein, figurez-vous, il s'appelle Léger-Vin, c'est aussi tout un programme. Et puis il y a une sorte de jeune écervelé, mais une femme libérée, enfin c'est pas dans le sens péjoratif, mais une sorte d'écervelé et sa mère. Et ils décident d'aller visiter les champs de bataille, parce que figurez-vous, ils ne savent pas ce que c'est un champ de bataille. Et donc ils partent avec leur chauffeur, le pique-nique. Et puis ils vont à Urtebise, justement, Urtebise bien connu. Ils s'installent sur le champ de bataille, ils sortent la nappe, le poulet froid, les bouteilles, etc. Et puis bon voilà, ils discutent. Excusez-moi, c'est peut-être pas le bon moment pour parler de ça, mais voilà. Donc et puis voilà, ils discutent. Et puis alors ils ont quelques réflexions un peu amènes. Mais finalement le paysage est pas mal. Pourquoi ils se plaignaient, les poilus. Et puis que font, tiens, il y a des dames qui sont en promenade là-bas, avant de se rendre compte que ce sont des veuves qui cherchent des tombes. Et puis il y a All for Gold, ben ils ramassent deux vertèbres là, ben, ça fera un bon petit souvenir, je le mets dans la poche. Voilà, comme ça ils passent l'après-midi, comme ça, voilà. Et puis le soir, ben, il faut repartir, on monte dans la voiture et elle tombe en panne. Voilà, et donc ils sont loin de tout, il faut que le chauffeur, ben, il va partir essayer de trouver des secours, et puis finalement ils vont passer la nuit sur le champ de bataille, et puis sur le champ de bataille. Alors, ce n'est pas une illustration du livre, mais il y a la révolte des morts. Bon, je ne vous raconte pas la fin de l'histoire. Mes enfants diraient que je vous spoil l'histoire, donc je ne vais pas le faire. Mais ça se termine mal. Alors, il faut dire que François Duhourcault ne trouve aucun éditeur pour publier le livre. Il va quand même en publier, donc on a vu 500 exemplaires à Bayonne. Il va les distribuer un peu aux personnes qu'il connaît, hein, jusqu'au président Raymond Poincaré. Voilà, il va les distribuer, mais le livre n'a strictement aucun succès. J'ai mis juste ici le livre. Il s'avère que sa bibliothèque a été dispersée. Il y a peu de temps, on trouvait ses livres dédicacés. Celui-ci est dédicacé à sa femme. Donc c'est la révolte des morts qui est dédicacée à... Voilà, qui est dédicacé à sa femme. Le livre sera ensuite réédité. Je vais revenir sur après la publication de ses autres romans. Alors, il va faire paraître ensuite un autre roman qui s'appelle le. J'ai encore du temps là, ça va ? Oui. Qui s'appelle donc Un homme à la mer et qui raconte l'histoire d'un officier blessé. Qui vient en convalescence à Guétari. Alors, ça, le fait qu'il vienne à Guétari est intéressant dans le roman parce que je dois dire que c'est quand même un très grand écrivain. Il est capable de rendre bien l'atmosphère d'une région. Il parle il vient au printemps, le printemps dans le Pays basque, la nature qui se réveille, la mer, etc. Il y a de très, très belles pages dans ce roman. L'histoire, après, est différente, mais c'est un écrivain qui a véritablement du métier. Pour ça, la lecture peut être agréable. Alors, que raconte ce roman ? En fait, il raconte l'histoire d'un officier qui a été blessé, qui revient donc en convalescence à Guétari, qui est en fait divorcé d'une première femme pieuse qui lui avait donné 2 enfants, etc., et qui est morte en soignant des blessés. Lui s'était remarié avec une sorte de femme libérée, hein, d'une femme riche qui avait été sa maîtresse pendant un certain temps, et qu'il avait épousée sous 2 conditions, qu'il quitte l'armée, ce qu'il avait fait, et que les enfants ne viennent jamais troubler les enfants de son premier lit ne viennent jamais troubler son ménage. Il est blessé, ses enfants se retrouvent sans leur mère, donc il est obligé de les accueillir. Alors, sa nouvelle femme, il a été blessé, elle va lui trouver un poste à l'abri. Hein, elle va jouer toutes les relations qu'elle avait pour lui trouver un poste dans un état-major. Au début, il accepte, et puis finalement, il retrouve son colonel qui lui dit il y a quand même tous tes soldats qui t'attendent, ça serait bien que tu reviennes. Et c'est le devoir qui va prendre le dessus. Donc il va aussi se rendre compte que son amour avec sa deuxième femme est terminé. En fait, la fin du roman, que je ne vais pas vous raconter, qui se termine mal aussi évidemment, mais que je ne vais pas vous raconter, mais enfin il y a quand même une morale qui dit qu'en fait il paye toutes les égarements qu'il avait eus. Il n'aurait pas dû se séparer de sa première femme, etc. Donc on est quand même dans une littérature très 19e. Et c'est comme le premier roman, il n'aura aucun succès. Il faut quand même... Comparons quand même ces romans-là dont je vous décris rapidement l'histoire avec 1919. C'est le prix Goncourt, c'est Proust avec La Recherche. La Révolte des Morts... Vous avez à côté de ça Le Réveil des Morts de Dorgelès qui a un succès considérable. Et qui a un succès considérable, pourquoi ? Parce qu'il raconte l'impact de la guerre sur les sentiments. Et le roman est véritablement, si vous l'avez lu, est véritablement poignant, Le Réveil des Morts. Hein, c'est une histoire qui est un peu en parallèle avec un officier qui s'est remarié, mais dont la guerre va en fait amener une transformation des sentiments, se rendre compte que la vie ne peut plus être comme elle était auparavant, tout est transformé. Et le roman est véritablement, comme je disais, poignant, ce qui n'est pas le cas. Bon, c'est intéressant, cette espèce de caricature de la révolte des morts, mais ce n'est pas le cas. Bon. Son deuxième roman, Un homme à la mer, va tout de même avoir le prix Furtado de l'Académie française. Et alors, le prix Furtado de l'Académie française, c'est le prix qui est donné à un texte utile. Bon, voilà, c'est pour se poser la question, quelle est la définition du terme utile. Il va ensuite publier un livre qui n'a pas de rapport avec avec la guerre, c'est La Rose de Jéricho, c'est l'histoire d'une femme qui est prise qui hésite entre son ancien amant et puis un nouvel amour. Bon, c'est du Paul Bourget sans avoir la complexité que l'on peut retrouver, enfin l'analyse fine et complète de la complexité des sentiments que l'on peut avoir chez Paul Bourget. C'est un roman qui se déroule à Hendaye. Donc là aussi on a un très on retrouve bien les lieux, toute l'atmosphère, etc., mais qui est qui est pas très bien construit, qui se termine brutalement, qui se termine une fois de plus très mal, voilà, qui n'a pas plus de succès. Alors ensuite, il persévère puisque ça va être L'enfant de la victoire, qui raconte l'histoire d'un jeune homme dont le père avait une conduite héroïque pendant la guerre, mais lui, le jeune, il avait 17 ans en 1918, il n'avait pas pu combattre, mais il se destine à des études de médecine qu'il ne va pas pouvoir faire parce que son père est décédé, n'a pas laissé de fortune. Il va être tenté un moment par l'anarchisme, mais il va se faire remettre dans le droit chemin, je dirais, par un poilu qu'il rencontre lors du défilé du 14 juillet 1919. Il se promenait là un peu par hasard. Le poilu, il sympathise avec le poilu, qui a un an de plus que lui, qui va lui faire un peu la morale et qui va le remettre dans le droit chemin. Eh bien, figurez-vous, ce roman va obtenir en 1925 le grand prix du roman de l'Académie française. Alors, vous me direz, ah ben oui, mais ça c'est vraiment une grande reconnaissance. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette année-là, il avait comme concurrent Joseph Kessel avec les rois aveugles. Alors Joseph Kessel, le problème, c'est que si François Duhourcault était soutenu par Paul Bourget, il avait aussi Joseph Kessel, lui, avait un ennemi dans la personne de Raymond Poincaré qui ne lui pardonnait pas d'avoir écrit des textes très critiques sur le tsar Nicolas II. Et Poincaré a fait tout son possible pour que Kessel n'ait pas le Grand Prix. Et donc, c'est l'outsider qui l'a eu, finalement. Voilà. Même s'il a eu le Grand Prix, les tirages ont été de quelques milliers d'exemplaires, ont été relativement modestes, ce qui veut dire que le roman n'a pas eu beaucoup de succès. Il va... Donc ça, c'était La Rose de Jéricho que j'ai évoquée, L'Enfant de la Victoire. Il va écrire un dernier roman, La Demi-Morte, alors qui est édité chez Grasset. C'est l'histoire assez lamentable d'une jeune fille qui est séduite par un berger. Alors c'est un amour réciproque, mais elle est séduite par un berger, elle tombe enceinte, son père la renvoie, elle s'enfuit, donc elle quitte la maison et puis elle devient à moitié folle, donc la demi-morte. C'est un roman finalement qui se déroule, bon, qui se lit assez facilement, mais qui n'apporte aucune émotion. Moi, je compare avec un autre roman qui est paru chez Grasset à la même période, qui est le Baiser aux lépreux de François Mauriac. C'est un texte qui est à peu près de la même longueur, qui est remarquable, qui est très, très saisissant. Voilà, c'est deux bons écrivains. Il y a d'un côté un génie, puis il y a quelqu'un qui est plus un homme du 19e siècle dans son écriture. Hein. Voilà, donc il n'apporte rien de plus à la littérature, bon, mais c'était un bon écrivain. En fait, ce livre n'a aucun succès, et donc il va arrêter d'écrire des romans pour se consacrer à des travaux d'histoire et des travaux plutôt d'intérêt géographique. Donc il va faire paraître, par exemple, les 3B, Béarn, Basquie, Bigorre, qui est préfacé par Francis Jammes étant l'un de ses connaissances, un de ses amis. Il va faire paraître, Plaisir du Béarn, le roman de Roncevaux, Henri IV. En fait, je peux m'arrêter 2 minutes pour parler des engagements donc, de François Duhourcault, qui est un conservateur catholique, proche de l'Action française, donc il écrit d'ailleurs à l'Action française, proche de Maurice Barrès. En fait, son texte le plus connu est sans doute celui-ci, La voix intérieure de Maurice Barrès d'après ses cahiers, parce qu'il a eu accès aux cahiers de Maurice Barrès avant leur publication par son fils. Il en a fait une synthèse qui est très bien faite. Et à l'époque où ça paraît, donc on est en 1929, Maurice Barrès est mort en 1923, mais il est encore un personnage très important de la littérature et de la vie politique. Ça a été un maître à penser, aujourd'hui on ne s'en rend pas bien compte, mais ça a été un véritable maître à penser de toute une génération, avant la guerre de 14-18. Voilà, ce livre est sans doute celui qui aura eu le plus de succès et qui l'aura fait le mieux connaître. Alors, avec tous ces écrits, figurez-vous qu'il va quand même se présenter à l'Académie française en 1936 au fauteuil d'Henri de Régnier. Et il a comme principal support Pierre Benoît et puis Claude Farrère. Et en fait, il va échouer. C'est Jacques de Lacretelle qui va être élu. Et ce qui est assez révélateur, c'est que Jacques de Lacretelle, c'était un grand essayiste, mais il avait été aussi réformé pendant la guerre de 14-18. C'est un progressiste, il est loin de l'Action française, donc en fait on voit que la roue a tourné par rapport au profil de François Duhourcault. Bon, je vais un peu accélérer. Il va ensuite, alors peut-être ce que l'on peut signaler, il va être aussi mêlé à l'histoire Pozzo di Borgo, là, une histoire entre le colonel de la Roque et Pozzo di Borgo, qui était son ancien trésorier aux Croix de Feu. Il y aura un procès dans lequel François Duhourcault sera cité comme témoin en faveur de Pozzo di Borgo, et il est désigné comme étant François Duhourcault de l'Action française. J'ai retrouvé la trace, il a envisagé d'être candidat à la députation de Bayonne en 1936 pour l'Action française. Je ne sais pas pourquoi, il a retiré sa candidature, ça serait encore une chose à étudier, mais bon, 1936 à Bayonne, c'était compliqué, parce qu'on sortait de l'affaire Stavisky. Nous arrivons à la. Alors, ce que je peux aussi évoquer, donc il a travaillé sur Pierre Loti. Bon, j'avais évoqué aussi, c'était un grand amateur de. C'était un ami de Claude Farrère, donc il lui a dédicacé un de ses ouvrages sur Pierre Loti. On arrive à la guerre de 39-45. Donc, il va. En 1939, il va se retirer définitivement à Bayonne, il va continuer à écrire dans de nombreux journaux. Alors, vous comprendrez avec son passé que c'est un maréchaliste convaincu et il restera toujours maréchaliste, mais pas, il ne versera jamais dans la collaboration et il ne soutiendra jamais la collaboration, ce qui fait que il est à la libération, il n'a pas été inquiété. Hein, le fait d'avoir été maréchaliste est généralement pardonné, et donc il n'avait pas versé donc, dans la collaboration. Et il restera d'ailleurs, même après la guerre, président d'honneur de l'Association des écrivains combattants. Il était vice-président depuis de nombreuses années, depuis la création dans les années 20. Voilà, son dernier ouvrage, après Henri IV que j'avais présenté tout à l'heure, son dernier ouvrage sera Une vie de Jésus-Christ. C'est un peu, voilà, ça conclut une vie qu'il fera paraître en 1946. Et il décède en 1951 à Bayonne. Je peux juste dire deux mots pour terminer sur son épouse, Claude Socori. Alors, Claude, ce nom Socori, j'ai compris que ça venait du nom d'une chapelle Notre-Dame de Socori au-dessus du Rugne. Voilà, elle avait choisi ce... Elle a écrit quelques textes et puis quelques comédies, un peu, et puis de la poésie. Voilà, l'aile repliée. Elle est décédée beaucoup, une vingtaine d'années après lui. Voilà quelques mots que je voulais vous dire sur François Duhourcault. En fait, il faut quand même le reconnaître, un homme qui a été marqué dans sa chair là, pour la défense du pays, quand même, hein, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut lui reconnaître. Un écrivain, je dirais, qui a du métier, qui a un certain talent, mais c'est un écrivain du 19e siècle. Et au 20e siècle, il était passé de mode. Et donc c'est un peu pour ça qu'il a été oublié. Mais bon, il faut quand même, il mérite quand même de ne pas complètement disparaître de nos mémoires. Voilà.
François Duhourcault, un officier écrivain bayonnais, vous venez de suivre l'intervention de Laurent Tedjen, historien écrivain de l'Académie des Belles-Lettres de Clermont. Les 150 ans de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne, société savante et personnalité régionale. Rencontre scientifique organisée par la Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne à l'occasion du 150e anniversaire de sa fondation, novembre 1873, novembre 2023, avec le concours de la ville de Bayonne. Les 150 ans de la SSLA à la Maison des Associations de Bayonne, les 22 et 23 novembre 2023. Retrouvez toutes les interventions sur le site internet de Radio Lapourdie, www.lapourdie.net.